Des poches sous les yeux, l'interview en partenariat avec Cyclic.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce spécial des poches sous les yeux en partenariat avec Cyclic où nous recevons Jonathan Wable. J'ai répété parce que depuis deux jours je fais Jonathan Wable. On doit te la faire régulièrement celle-là. Oui. Jonathan Wable, on pourrait la faire d'anglais. Jonathan, dessinateur, photographe, écrivain. Tu as passé ces derniers mois, Jonathan, dans un centre hospitalier, le centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun.
Tout à fait.
Dans le cadre d'un dispositif d'auteur associé créé par Cyclic. Qui a eu cette idée de t'envoyer à Issoudun dans un centre hospitalier? C'est toi ou c'est Cyclic?
C'est pas tout à fait une idée, c'est plus une envie qui venait de ma part. Donc Yann, qui lançait ce dispositif, donc qui travaille à Cyclic, me connaissait, m'a approché pour me parler de ce projet-là, pour savoir si j'étais intéressé. Et j'ai eu tout de suite l'envie d'aller dans un hôpital. Déjà un, parce que au moment où il me l'a proposé, je venais de passer du temps dans un hôpital, l'hôpital de Chinon, où dans le hall, il y a une bibliothèque, enfin une sorte de vieille bibliothèque un peu poussiéreuse qui est accolée au magasin presse, au relais H habituel. Et c'est un lieu qui m'intriguait, et du coup, comme il m'a parlé de ça à ce moment-là, j'ai fait une association. Et j'ai écrit à Chinon pour leur en parler, j'ai pas eu de réponse de la direction, donc ça s'est pas fait. Et Yann a pris par hasard en covoiturage le sous-directeur de l'hôpital d'Issoudun. Donc c'est un parfait hasard, et lui en a parlé, on s'est rencontrés, et voilà comment ça a commencé.
Alors un hôpital, c'est un lieu super réglé, super organisé, super hiérarchique. Et qu'est-ce qu'un écrivain vient faire dans un hôpital ?
Eh bien, c'est vrai que c'est un lieu super hiérarchique, et c'était pas évident d'ailleurs pour ces raisons-là, mais moi j'avais surtout l'intuition, je voulais sortir des lieux culturels, surtout je voulais profiter de l'occasion pour sortir des lieux culturels pour voir si un autre type de rapport était possible dans la rencontre entre un écrivain et un public donné. Et l'hôpital, il me paraissait y avoir des échos avec l'hôpital, parce que c'est des personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles, enfin des remises en cause de leur identité souvent. On traverse des choses complexes, et il me semblait que les outils que moi j'avais acquis par l'écriture et par mes lectures pouvaient servir à des personnes étant amenées à aller à l'hôpital.
Alors, t'as installé un bureau là-bas. Il y avait quoi sur la porte du bureau? Qu'est-ce qui était écrit?
Ça s'est fait petit à petit. En fait, déjà, il faut pour préciser un peu, le centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun, c'est un petit hôpital. C'est un petit hôpital, donc il y a 400 lits, 567, je crois, employés. Donc ça reste un terrain de jeu quand même assez grand. Et l'avantage d'Issoudun, c'est qu'il y a un centre de rééducation par rapport à beaucoup d'hôpitaux. L'avantage des centres de rééducation, c'est que les personnes y sont présentes pendant de longs mois. Parce qu'aujourd'hui, dans un hôpital, le but, c'est que les personnes sortent le plus rapidement possible. Donc mon projet de résidence et de m'inscrire dans le lieu au fil des mois était moins évident.
Ça, tu l'as découvert tout de suite ou tu
ça,
le savais
j'ai découvert
avant
en rencontrant Julien Dubeau, qui est le sous-directeur de l'hôpital d'Issoudun. Donc il m'a proposé ça en me donnant voilà l'avantage d'Issoudun. Donc je me suis installé dans le centre de rééducation, plus précisément de l'hôpital. Effectivement, sur le bureau, au début, j'avais mis cabinet de curiosité, parce que du coup, le projet se fait au fur et à mesure. Il était informel au début, et je l'ai défini au fur et à mesure. Et à la fin du projet, c'était bureau du fantôme de l'hôpital. C'est ça qui est devenu le projet.
Donc on parlait de toi comme du fantôme de l'hôpital.
Oui.
Et pourquoi alors? Parce que tu n'étais jamais dans ton bureau?
pas exactement. C'est plus parce que j'étais indéfini. On ne savait pas qui j'étais. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la présence, de l'apparition.
T'étais indéfini dans l'organisation de l'hôpital.
Indéfini dans l'organisation de l'hôpital. Au début, je me suis vraiment défini comme écrivain en résidence à l'hôpital, etc. Et puis je me suis rendu compte que ça n'amenait pas le type de rencontre que je souhaitais. Et j'ai quitté la fonction d'écrivain pour devenir plus anonyme. Ça ne veut pas dire que j'ai cessé de l'être, mais c'était plus ce qui ressortait en premier. Et j'ai fait des rencontres informelles avec les personnes. Et du coup, c'est devenu le bureau du fantôme de l'hôpital. C'était intriguant et ça faisait une présence.
Mais alors, il y a deux mondes à l'hôpital. Il y a le monde des soignants et le monde des soignés. T'as fait des rencontres dans les deux mondes?
Ça s'est fait en deux temps. Quand je suis arrivé à l'hôpital, déjà, j'ai été accueilli par des soignants. deux membres du personnel qui m'ont fait découvrir les lieux. Et du coup, au début, j'étais très volontaire parce que j'avais fait ce projet qui était informel, donc de voir quel type de rencontre allait se faire au fur et à mesure, donc dont le but était d'être disponible. Mais être disponible, c'est pas si simple parce que ça demande d'attendre, des fois de rien faire, etc. Et moi, j'avais pas le courage, on va dire, de ne rien faire et de, vis-à-vis du personnel, de rester là, les bras ballants, en attendant qu'il se passe quelque chose. Donc au début, j'ai quitté le bureau et j'ai surtout été rencontrer le personnel soignant. Et puis ça m'a permis d'apprendre aussi à connaître ce milieu-là que je connaissais pas du tout, qui est vaste et qui fonctionne pas du tout comme les milieux culturels. C'est très hiérarchisé, tout est très compliqué. Avoir du scotch, d'ailleurs je ne l'ai jamais eu, c'est extrêmement laborieux. Il faut parler à 10 personnes différentes qui s'envoient des mails, qui envoient un mail au fournisseur, qui renvoient un mail comme quoi c'est pas possible. Et du coup, j'ai rencontré le personnel soignant sous cet axe-là. Et moi, je voulais pas rencontrer des soignants en tant que soignant, comme je voulais pas rencontrer des patients comme patients, je voulais juste rencontrer des personnes. Et je me suis rendu compte que les soignants, je ne pouvais pas avoir accès à eux hors de leur métier. Et de fait, c'est leur lieu de travail. Et effectivement, les patients, c'est un lieu de vie pour eux. Donc, je suis retourné vers eux après coup, pour quand je suis sorti de ce rapport journaliste qui me bloquait un peu. C'est une fois que j'avais appris les informations et le discours que je pouvais apprendre, j'étais un peu coincé.
Et alors, les patients, le but, j'imagine, c'était de parler avec eux. Et dans un hôpital, on a peur des mots quand même. On n'aime pas trop parler.
Tout dépend. Ça dépend vraiment des patients. Le but, c'était de laisser un espace de parole qui ne soit déterminé par rien, donc qui n'est pas d'enjeu, donc qui se retrouve à parler comme il se retrouve à parler à l'extérieur, parce qu'ils sont là, il faut imaginer qu'ils sont là-bas pendant le plus souvent 3-4 mois, 8 mois, un an et demi pour les cas les plus difficiles. Donc ils sont quand même dans un milieu clos, ils ont une habitude, c'est un espace qui est complètement fermé, ils sortent assez peu, même s'ils rentrent chez eux le week-end, ils sont quand même pris dans l'hôpital. Donc c'était de créer cet espace de discussion qui soit presque normal, où la parole puisse avoir on puisse parler du médecin sans que c'est d'incidence, qu'il n'y ait pas de rapport de force. Donc c'était cet espace, mais ils n'ont pas peur des mots, a priori, au contraire, ils ont envie de parler et envie de parler beaucoup.
Après, parler de quoi alors?
Ah bah ça commence forcément sur les. On a beaucoup évoqué au début les médecins et l'hôpital et ce qu'ils vivaient, mais c'est après ça parle de leur vie, de ce qu'ils traversent, des questions que leur situation leur pose. Ils se posent des questions sur des questions des fois d'ordre philosophique avec leurs moyens évidemment. Il y a eu des débats politiques, après on parle de tout et de n'importe quoi, enfin c'est une discussion comme elle se fait entre deux personnes n'importe où.
Et les gens venaient te voir ou c'est toi qui passais dans les chambres?
Non, les gens venaient me voir, justement je voulais sortir du rapport volontaire puisque c'est déjà ce que propose l'hôpital. Donc d'aller voir les personnes pour proposer un programme. Là, il n'y a pas de programme, donc c'est informel. Donc les gens qui venaient voir, souvent c'était des personnes qui cherchaient quelque chose de différent. Donc il y avait quand même une présence. Parce que j'habitais cette salle-là, que j'accrochais des choses et que je venais toutes les semaines, donc on pouvait m'identifier au fur et à mesure. Et du coup, ils se connaissent tous par cœur, ils passent quand même toute leur vie là-bas. Et c'est pas une fois que les kinés sont faits, les heures de kiné, les heures d'ergothérapie, etc., ils ont rien à disposition à part la télévision. Donc du coup, ils ont une certaine curiosité pour tout ce qui serait nouveau. Et des personnes, du coup, sont venues me parler, puis moi, j'en profitais pour tirer le fil, et puis après, ils voient bien que c'est une discussion un peu bizarre, et puis on part.
Alors, t'as pas trouvé de scotch, mais tu réussis quand même à coller sur les murs des mots, des post-it
J'en ai acheté du scotch, très simplement. oui, sur les murs, j'ai accroché des images à l'intérieur de la salle, qui me servent comme support d'écriture. C'est ce que j'utilise quand je rencontre des lycéens comme matière. C'est déjà ce que j'utilise moi quand j'écris, donc c'est ce que je propose aux personnes comme expérience d'écriture. Et donc j'ai accroché des images à l'intérieur et à l'extérieur, sur les portes, sur les fenêtres qui donnent sur le couloir, j'avais accroché des photocopies. Comme j'avais 2 heures de transport matin et soir, donc 4 heures par jour, j'ai beaucoup lu. Et chaque semaine, je photocopiais une page du livre que j'étais en train de lire pour l'accrocher dans le hall pour donner à voir.
Pour accrocher le public ou...
Pour donner plus, c'est plus une présence, c'est pas pour accrocher quoi que ce soit, parce que j'ai rien à vendre, mais c'est donner un signe de quelque chose, d'un autre espace. Qui, d'ailleurs, les gens s'arrêtaient pour lire. C'est plus pour égayer une curiosité. Je sais qu'ils vont pas tomber sur ces livres-là, de toute façon, à Issoudun et encore moins à l'hôpital. Donc, ça permettait d'échanger. Comme c'était moi, ma réalité de ce mouvement-là vers l'hôpital, ces 2 heures de transport matin et soir, ça me permettait de communiquer cette expérience-là aux personnes, sans que ce soit, comment dire, formellement dit ou théorique. C'est juste, chaque personne est libre de le lire. Il y a le titre qui est écrit en bas. C'est une curiosité. Un échange, quoi.
T'as aussi fait des ateliers d'écriture.
J'en ai fait sur la fin, parce que donc au début je ne voulais pas donner d'atelier d'écriture, parce que c'est pour ça que j'étais à l'hôpital d'Issoudun aussi. C'était pour sortir du rapport des ateliers d'écriture, trouver une autre base de rencontre. Et j'ai finalement donné des ateliers à partir du moment où j'ai pu le faire hors institution, c'est-à-dire je les ai proposés comme le. D'ailleurs, c'est le fantôme de l'hôpital qui les a proposés. J'en ai parlé à personne, j'ai accroché mes affiches et c'était plus des. Tout est fait comme des bouteilles à la mer, donc. On envoie des choses et on voit si ça fait écho à quelqu'un ou pas.
Ça fait écho?
À quelques personnes. Il y a assez peu. Enfin, je veux dire, si on faisait une politique culturelle, on dirait que c'est complètement inefficace et que ça n'a pas beaucoup de. Mais ça fait écho à quelques personnes qui sont venues pour écrire et c'était des ateliers qui étaient super. Souvent à un ou deux et c'était assez passionnant. Ça développe un autre type de rapport. On a pu, justement, encore une fois, sur la discussion. Et ils ont fait des textes que j'ai accrochés après dans la salle, qui sont souvent assez passionnants. C'est un super outil, hein, l'écriture dans l'hôpital, que j'ai pas exploré parce que c'était pas le but de ces 8 mois-là, mais ce serait un. Dès qu'ils écrivent, il y a tout l'inconscient qui se met en jeu. Donc c'est passionnant les échos qu'il y a entre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils vivent. Donc c'est une base de discussion qui peut être, que je n'ai pas utilisée n'ayant pas les compétences directes pour le faire, mais ce qui pourrait être passionnant dans un rapport de travail avec la psychologue ou avec.
Et alors toi te mettre dans ce genre de situation, c'est quelque chose dont tu as besoin pour ton travail personnel?
Donc j'ai besoin. Je dirais pas besoin. J'avais envie en tout cas. J'avais envie parce que effectivement, on est pris dans un milieu. Il y a quand même des. En tout cas, moi, je me sens dans une société où on est cloisonné dans des communautés déterminées, soit par le travail, soit par l'endroit où on vit, soit par le niveau social. Et ça me permettait d'en sortir et de créer des ponts assez simplement, c'est-à-dire d'avoir des discussions avec des personnes que j'aurais pas rencontrées de tout ailleurs, et vice versa, et que ces discussions soient assez simples. C'est-à-dire que refaire circuler cette parole-là, y compris politiquement, et d'échanger. Donc de pas être dans un rapport de hiérarchie, mais d'être sur un plan, sur le même plan, et d'avoir 2 expériences en commun à partager, et à partir de ça, d'essayer de construire ensemble un bout de choses qui n'était pas toujours facile, puisque politiquement, il y a des enjeux très forts à Issoudun. Enfin, ils ont des points de vue très extrêmes, certains patients. Mais ça n'a pas empêché, c'est-à-dire que chacun avait son expérience et on la partageait, et puis à partir de là on se posait des questions mutuellement sur ce qu'on avait vécu, et puis c'est comme ça qu'on construisait. Donc, mais c'était pas un besoin, moi j'ai besoin de rencontrer des gens et d'entendre des histoires, de voir du monde et de découvrir surtout, mais c'était pas le besoin spécifiquement d'aller à Issoudun, plus le besoin de sortir.
Et alors avec ce que tu as tiré de cette expérience-là, ça va te servir pour des récits, des nouvelles, un roman?
Une nouvelle, je vais écrire une nouvelle sans doute. Rien n'est sûr encore pour l'instant parce que c'était une expérience extrêmement riche émotionnellement. Il y a un investissement fort parce qu'on partage quelque chose de très intime avec les personnes. Donc il faut. J'ai pas envie d'utiliser cette intimité-là. Directement, c'est pas une matière. J'ai pas été chassé pour récupérer de la matière, donc j'ai envie de laisser reposer l'expérience. Moi, je sais à peu près ce que j'ai vécu, et ça va donner lieu à une nouvelle. Ça va prendre la forme d'une nouvelle, mais je sais pas encore comment ça va se transformer exactement. J'ai une petite idée de l'histoire que ça raconte. C'est-à-dire, mon expérience à Issoudun, c'est comme une expérience d'une soirée au coin d'un feu. Enfin, c'est l'image que j'emploie en général. On se retrouve tous dans une auberge et puis chacun raconte une histoire. C'est le château des destins croisés. Et je pense que la nouvelle va être sur ce mode-là. Mais du coup, il va pas être question forcément de l'hôpital. C'est cet espace où on s'est rencontrés là. Donc l'hôpital détermine plus le moment où les gens vont raconter l'histoire. donc l'état dans lequel ils sont, plus psychiquement que physiquement d'ailleurs, ce qu'ils doivent affronter, et la nouvelle va sûrement parler de ça. Il sera moins question de l'hôpital que de ça.
Alors on va parler d'une autre expérience que tu as vécue cet été dans un quartier de Tours. En attendant, on va écouter Cold War Kids, Hospital Beds. Retour dans notre émission spéciale avec Cyclique des poches sous les yeux, on reçoit Jonathan Wable. Et après, en même temps même, tu étais à Issoudun, tu étais quasi en même temps dans un quartier de Tours, tu es un vrai fantôme, effectivement. Tu étais place Charles Dubourg, c'est tout près de MAM, du site MAM. Et tu faisais quoi là-bas alors?
Alors,
c'était un deuxième bureau.
Le projet s'appelait Carnet de ville des bords de Loire. Il a été mené par l'association Ecopia. Ils m'ont invité. C'est pas un projet que j'ai construit. C'est eux qui avaient cette idée-là de faire une résidence. Ça s'est fait en même temps qu'Issoudun, mais pas tout à fait, parce que j'ai pris un mois de pause à Issoudun. J'ai fait 4 mois, puis une pause en juillet, puis 4 mois à nouveau. Et c'est pendant la pause que j'ai fait l'essentiel du projet sur les bords de Loire. J'étais pas invité en tant qu'écrivain, mais en tant que dessinateur. Le but, c'était de faire un carnet de ville, une sorte de carnet de voyage du quartier. Et effectivement, il y avait un bureau aussi au cœur de ce quartier-là, des bords de Loire. Et j'y ai passé plusieurs journées. Pour mon travail dessin, je travaille essentiellement d'après photo. À la table lumineuse en dessinant sur photo.
Et ça, tu fais toujours ça? Toujours.
Je fais beaucoup ça. Je fais surtout du dessin par ordinateur à la souris. Je fais des dessins à la souris sur photo en agrandissant énormément l'image. Donc je dessine, je sais plus, à 500%. On voit que des morceaux, des bouts d'image que je dessine à la souris. Mais je dessine aussi à la table lumineuse. C'est des techniques que je trouve très intéressantes. Et du coup, je l'ai proposé aux habitants du quartier de dessiner à partir des photos que j'avais prises en me baladant. Et ça a donné le carnet de ville. C'est-à-dire que c'est les dessins que j'ai pu faire et les dessins qu'ils ont fait et le dialogue entre les deux qui a été le résultat. Qui a été exposé après au Bocal, qui est une succursale de l'association Courteline, puisque c'était en association aussi avec.
Mais là, ça veut dire que tu te balades dans le quartier, tu prends des photos, tu partages ces photos avec les.
Je me balade dans le quartier, je me balade beaucoup dans le quartier, je prends des photos, je les regarde, j'en prends d'autres, j'essaie d'ajuster, de trouver les meilleurs espaces. C'était un travail vraiment sur l'espace, qui a été mené, puis après je les imprimais, je les proposais effectivement aux habitants, aux jeunes qui pouvaient venir dans le local comme ils voulaient. Il y a eu des groupes après qui sont venus pour dessiner. Et donc c'est pareil, il doit y avoir 25 personnes qui sont venues dessiner, quelque chose comme ça.
Et les habitants du quartier ont découvert leur quartier là ?
Découvert, je sais pas, c'est peut-être. Mais en tout cas, ils étaient. Pour beaucoup, ils étaient heureux qu'il se passe quelque chose au cœur du quartier même. Ils étaient contents de pouvoir dessiner, ça c'est sûr, de voir leur quartier autrement certainement, mais ça c'est le dessin qui apporte ça. Effectivement, quand on dessine sur une photo, on est vraiment très concentré sur on apprend à regarder plus que. On apprend que dessiner, c'est d'abord regarder et suivre les choses, et ça permet de travailler ce rapport-là. Et c'est vrai que souvent les gens étaient surpris et par leur dessin et par ce qu'ils tiraient de la photo, parce que il y a eu plusieurs personnes qui ont fait la même photo, par exemple, ça donne des choses extrêmement différentes. Parce que on avait ce débat au départ là avec les personnes, parce qu'ils viennent avec l'a priori comme quoi c'est décalqué, que c'est comme si c'était une machine qui allait le faire et qu'il n'y avait plus le rapport à la main humaine. Mais de fait, en fait, chacun a un trait particulier, une façon de dessiner qui lui est propre, une sorte de souffle très différent. Il y en a qui ont un trait très appuyé tout de suite, une ligne très claire, il y a d'autres qui grisonnent, il y a des gens qui travaillent par rapport aux ombres, au volume, et intuitivement, même quand ils n'ont jamais de cours de dessin. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont jamais essayé de dessiner ou machin vont dessiner très différemment les unes des autres, et au sein de l'image, comme un dessin n'est pas une photo, chacun prend des détails très différents de l'image, réagence l'espace à sa manière, donc il y a une lisibilité qui est très différente d'une personne à une autre, et une façon de circuler dans l'espace qui n'est pas la même. Moi, j'ai tendance à être sur les volumes, par exemple, mais il y a des personnes, il y avait un dessin très beau, par exemple. Moi, j'avais fait la place MAM, donc j'avais dessiné MAM, c'était un dessin très clair, on voyait la place, le dessin était très épuré, tout en horizon, et la personne, elle a dessiné, ce que moi, je n'ai pas dessiné, l'ombre de l'arbre sur le sol. L'arbre, il est hors champ, on voyait une ombre sur le sol, et elle a dessiné cette ombre-là, en ligne. Elle a pas fait en grisé. Elle a juste dessiné le contour des ombres, un bout du bâtiment, etc. Et ça donne un dessin qui n'a pas du tout la même ambiance. Et qui, pourtant, part lui aussi de la photo. Et il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a une mare, qui envahit l'image, c'est très curieux.
Alors, t'as passé du temps à Issoudun, et tu disais, il y a de la solitude à Issoudun, c'est une ville compliquée. Quand on est dans un quartier comme ça, est-ce qu'on retrouve finalement la même chose ? On est au milieu de Tours, dans un quartier. Est-ce que les gens sont isolés dans ce quartier ?
Isolés, oui, un petit peu, je pense. Enfin, c'est surtout à eux qu'il faudrait le demander, dans l'absolu. Ça a été évoqué, et je pense que les personnes qui venaient nous voir nous ont exprimé le fait qu'il y avait peu de choses qui se passaient au sein du quartier. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à sortir de leur quartier pour aller vers autre chose. Il y a pas tant de solitude, parce qu'ils sont quand même beaucoup, il y a une grosse densité, ils sont les uns sur les autres dans des espaces avec des cloisons très fines, donc ils se sentent, à mon avis, pas seuls, ils sont au contraire
en communauté,
les uns sur les autres. Les espaces sont refermés sur eux-mêmes, donc il y a plus un cloisonnement, c'est plus un enfermement qu'une solitude.
Ils ont l'impression qu'on s'occupe pas assez du quartier, ou que la ville délaisse ce genre de quartier.
Je pourrais pas le dire à leur place, hein, encore une fois. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand on est au sein du quartier, il y a un sentiment qui vient de l'architecture, de l'urbanisme, et qu'on ne retrouve pas dans les photos d'époque, dans les années 60, quand c'était construit, où ils ont refermé petit à petit le quartier sur lui-même. Toutes les photos que je prenais étaient basées sur un espace de place de pourtour. C'est comme des places de prison, quoi. C'est que des espaces entourés. Il n'y a jamais d'ouverture. Il n'y a pas d'horizon, d'espace. Il n'y a pas d'espace qui est donné, quoi. Donc c'est très curieux.
Et ces carnets de dessin, ils existent déjà ou ils sortiront?
Le carnet, il a été imprimé par l'association Ecopia, donc il est distribué gratuitement auprès de l'association Ecopia, auprès de Courteline et auprès de Tour Habitat, qui le donne donc ils gèrent tous les immeubles de cet espace-là et qui le distribuent aux nouveaux arrivants, logiquement.
Alors, comme tu aimes rencontrer des gens, il y a un troisième dispositif auquel tu participes, avec Cyclic, encore une fois, lycéens et littérature contemporaine. Ça consiste en quoi, ce dispositif?
Le dispositif de lycéens, donc là, c'est Cyclic qui a choisi que le livre que j'ai écrit soit présent dedans. Je crois que le but, c'est que je crois qu'il y a une trentaine de classes qui participent. Les élèves aient accès à trois livres, un roman, une bande dessinée et un livre de poésie, que chaque élève les lise et rencontre après un des auteurs. Et voilà, donc c'est un dispositif de lecture sur une année.
Là, tu vas donc aller dans des classes.
Là, je vais faire des rencontres, ça va être plus classique, ça va être des rencontres pour répondre pour le livre, sur l'écriture, les conditions d'écriture, les raisons, c'est 2 heures de rencontre qui vont le milieu du livre, les conditions de travail, etc. etc.
T'as déjà rencontré des lycéens comme ça l'année dernière à Balzac?
J'en ai rencontré à Balzac, qui avait été la classe pilote pour le dispositif. Et
ça secoue de rencontrer des lycéens?
Non, c'est souvent passionnant parce qu'ils ont beaucoup de questions, ils sont très attentifs aux réponses, ils posent des questions par rapport aux réponses que je fais. Donc il y a une attention très présente. Après, le livre que j'ai écrit, les déstabilise souvent, donc ils ont énormément de questions, ils sont très partagés. On peut pas dire qu'ils l'adorent particulièrement. Il y en a certains qui l'aiment beaucoup, mais il y en a qui le détestent ouvertement. Et du coup, on en parle, ils ont beaucoup de questions dessus, et c'est souvent très intense en termes de paroles, parce que c'est deux heures de questions non-stop, et ça pourrait continuer. Il y a une grande soif de comprendre le processus de l'écriture, le travail, les choix. Il y a une envie de comprendre tous les tenants et les aboutissants, comme si j'avais décidé chaque détail, ce qui est en partie vrai, mais en partie faux. Donc on parle de l'inconscient, on parle de ces choses-là.
Alors, Cyclic, ça sert à quoi, Cyclic, pour des auteurs comme toi en région? Ça, si Cyclic n'existait pas, il se passerait quoi?
pour moi en région, moi j'ai publié qu'un seul livre, donc je suis un jeune écrivain. Ça a été surtout un soutien. Ils ont repéré le livre, ils savent que j'habite ici et ils soutiennent le travail. Ça me permet de rencontrer des personnes. Financièrement, il y a forcément une aide conséquente, étant donné que les livres apportent peu, c'est un gros coup de pouce. C'est des portes pour le plus de rencontres possibles. Et après, ça me donne des opportunités aussi d'essayer des choses, de moduler, d'inventer des dispositifs, d'autres modalités de rencontre, etc.
Alors, on peut toujours acheter ton premier livre, parce que même si ça rapporte peu, bah, il faut le dire, 6 photos noircies, qu'il est paru en 2013, très très bonne critique partout, même si certains lycéens n'aiment pas, mais très, très bonne critique partout. Le prochain livre, il sort quand?
Oula, pas tout de suite. Je suis très lent et il sortira quand il sera fini.
Ouais.
Je suis pas pressé. J'écris à mon rythme et c'est un rythme très lent. Donc ce sera un recueil de nouvelles, très certainement, et ce sera pas avant au moins 2 ans, enfin, je pense.
Bien.
Ben c'est en étant optimiste.
On va patienter. Merci, Jonathan, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. À bientôt
pour
des interviews avec Cyclic.
Retrouvez cette interview en partenariat avec Cyclic sur despochessouslesyeux.fr, radiobeton.com ou encore la page Facebook des Poches sous les yeux.